mon premier, c'est que c'était l'espace des possibles. Quand je suis arrivé, qu'on m'a proposé de prendre la direction du lieu, ça venait tout juste d'intégrer les services du département. Et en fait, c'était plein de vides et c'était plein de possibles. Quand on rentrait dans l'espace, par rapport à aujourd'hui, il n'y avait rien. Il y avait les ordinateurs qui étaient dans la petite pièce du haut. En haut, il y avait les espaces d'exposition. Mais ma première visite, je me souviens surtout du noir et du vide. Et contrairement à beaucoup de discussions que j'ai eues par la suite, je me suis dit, bah, c'est l'endroit où soit on fait rien, soit on peut tout faire. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans le projet. Avec un défi qui m'était donné de trouver la place avec la médiathèque départementale, et moi ça a rajouté dans les possibles. Et puis aussi la question du numérique et du multimédia qui avait strictement rien à voir avec les questions qu'il faudrait poser aujourd'hui si on repartait de rien par rapport à ce lieu et ces questions du numérique et du multimédia. Mais à chaque fois c'était que des possibles et endroits aussi. Je me rappelle évidemment aussi de Jean Liborio et des échanges que j'ai eus à l'époque avec lui en tant que maire et ce qu'il espérait de ce lieu dans la commune. Et donc ça a été ça, le point de départ. C'est-à-dire que ça pouvait être un endroit où on pouvait interroger l'histoire de l'art avec le multimédia et le numérique. C'était un endroit où on allait pouvoir poser les questions d'un espace documentaire au sein d'un lieu culturel, que ça allait être un lieu culturel de haut niveau, mais qui devait être aussi une MJC high-tech, comme je le disais, où on allait pouvoir avoir des gamins qui jouaient à des jeux vidéo pendant que des artistes préparaient leur exposition. Et ce souvenir, il se percute avec quelque chose qu'on m'a raconté cette semaine à Strasbourg, où des gens à qui on a déjà parlé de ce lieu, qui sont venus dans ce lieu me raconter que quelqu'un y est passé il n'y a pas longtemps et était complètement éberlué d'être passé à Bourgogne, de voir ce qui a été fait, maintenant, 17 ans après que je sois arrivé, et de se dire qu'ils n'y arrivent toujours pas à l'endroit où eux, ils sont, dans leur grande ville. Et ça, j'en ai eu beaucoup de discussions à l'époque de gens qui me disaient, mais ça n'a rien à faire ici, ça devrait être au centre-ville de Strasbourg ou d'ailleurs. Et moi, je disais non, il n'y a aucune raison que ça soit au centre de Strasbourg et pas au centre de ce village, parce que si on le met au centre d'une grande ville, c'est assez plus simple pour les professionnels de la culture. Il suffit de pousser la porte et puis de toute façon, il y aura du monde. Alors que là, forcément, ça posait des questions de faire autrement. Et puis, ça permettait de faire ce que beaucoup de lieux à l'époque ne savaient pas faire. En plus, c'était de mettre la convivialité au centre. Et donc, je me rappelle du premier vernissage quand Pierre et Rodolphe étaient là, donc Pierre Alféry et Rodolphe Burger, et qu'on a... Donc, c'était en 2002. Mmh. À l'automne 2002, si mes souvenirs sont bons.
C'était In Time, l'expo In Time, je crois.
Ouais, c'est ça. Voilà. Mm-hmm. Donc une commande, c'était une proposition à Pierre de présenter ses poèmes numériques, ses poèmes en film. Et puis en même temps, il avait pensé une installation par rapport à l'espace en haut. Et tous les gamins qui, pour moi, étaient le cœur du lieu dans son quotidien, au moment du vernissage, ils s'étaient mis dehors, de l'autre côté des baies vitrées. Et ils regardaient ce qui était dedans, et regarder les boissons et le pot qui était préparé. Et puis moi j'étais les voir dehors, mais ils ont dit mais on a le droit d'être dedans. J'ai dit c'est le droit dedans, c'est pour vous quoi. Et puis c'est là que ça a démarré, le lien entre tout ça. Mais c'était ça, ce possible de montrer à des gens que c'était pour eux et que c'était normal de jouer. À l'époque c'était Counter-Strike, jouer à Counter-Strike pendant que d'autres faisaient autre chose, et qu'il fallait mélanger tout ça. Et puis je me suis amusé à faire des expériences. Je me rappelle le multimédois, quand Eric, je l'ai invité à le présenter, cette installation qui est très ludique et qui que du recyclage. Je l'avais fait aussi pour moi éprouver des choses que je testais dans la culture, qui était de partir du fait que chacun regarde un endroit à partir de ses points de repère. C'est un anthropologue qui avait démontré ça, que quand on regarde une montagne, l'agriculteur il regarde les surfaces agricoles et c'est ça qui l'intéresse. Pendant que l'écologiste il va regarder les zones à protéger, et puis celui qui aime le 4x4, les endroits où il peut faire du 4x4, et que les regards ils se croisent pas. Et le multimédois il m'avait servi à ça, parce qu'on l'avait installé à côté des tables où il y avait les ordinateurs. Et j'ai regardé combien de temps il a fallu pour que les gamins qui viennent jouer tous les jours commencent à voir que ça existait à côté d'eux, et puis qu'ils commencent à jouer avec. Et il a fallu 4 jours. 4 jours pour qu'ils se rendent compte que ça avait été installé à côté de leur endroit pour jouer, c'était vraiment à 3 mètres, hein, c'était à 3-4 mètres. Et puis après, pour commencer à oser à le toucher et à jouer avec. C'était, voilà, c'était cet endroit où, tout d'un coup aussi, bon, les premières commandes, hein, quand on a commencé à créer cet espace documentaire où il n'y avait rien, à part quelques DVD, si mes souvenirs sont bons, quand je suis arrivé.
Oui, les premières
C'est les
commandes
points.
de disques et puis de
De
bouquins, mais.
livres, et de livres, hein, l'ensemble des documents, quoi. Donc, c'est les premières caisses de livres et de disques, ouais, qui étaient des CD à l'époque, qui arrivaient et qui commençaient à occuper l'espace et puis à faire des nouvelles propositions. Puis petit à petit, la façon dont tout ça s'est envahi, et pour moi, c'était aussi un des possibles de réinterroger ce qui me rendait fou à l'époque, qui était l'approche très française de ce qu'était soi-disant l'art numérique, qui était pour moi, enfin, je le dis très sincèrement avec les mots tels que je les pensais à l'époque, très crétine, quoi, très, très bête, très, très coupée d'une histoire, et surtout d'une histoire de l'art expérimental. Et donc, pour moi, l'important, c'était dans les expositions, quand, soit à travers les artistes qu'on invitait, c'était le cas après avec des artistes comme Jody, mais quand on le faisait avec Pierre, c'était aussi ça, avec Pierre Alféri, c'était de montrer qu'il y avait un lien et de refaire cette histoire. Donc, c'est aussi pour ça que très vite, alors ça a été, je dis très vite parce qu'une expo comme ça se travaille quand même beaucoup et on a réussi à la préparer en un an et demi, c'était l'expo de Nicolas Schoeffer. Et de montrer que ça avait, en fait, toute cette pratique, toutes ces questions, elles venaient pas de nulle part, quoi.
Oui,
Il y avait
qui avait une
dans toutes
histoire
les...
et puis une, comment
Voilà.
dire, toute une antériorité à ces pratiques. Et justement, tu cites Nicolas Schoeffer parce que là, il y a ces jours-ci, là, depuis quelques mois, une grande exposition à Olam. Donc, il y a quand même, je pense, une certaine forme de fierté d'avoir participé. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être que quelque part, s'il y a une exposition dans un aussi important musée aujourd'hui, l'exposition de Bourgogne et puis le catalogue qui a été fait à l'époque n'est peut-être pas pour rien. Donc, je pense que c'est aussi une fierté pour toi.
Un
Un
plaisir, et
plaisir.
quand j'ai visité l'expo là, même si j'en ai parlé depuis avec Éléonore et qu'on a croisé nos points, Éléonore Schoeffer, hein, qu'on a croisé nos points de vue, ça me faisait plaisir d'être dans l'expo et de me dire, bon, bah, il a fallu 15 ans, mais ça y est, on a. Alors, quand on lit le début du catalogue, on sourit quand on connaît ce qui est rapidement raconté sur la période antérieure et puis comment ils projettent leur expo dans ce passé. Mais c'est sûr que quand on l'a fait, on était les premiers à défricher 10 ans, un peu plus de 10 ans après la, enfin, ouais, 10 ans après la mort de Nicolas Schoeffer, à se réinterroger sur comment tout ça allait survivre et ce que ça représentait dans l'histoire de l'art. Et je pense que si pour Éléonore, ce qu'on a fait à Bourgogne reste sûrement une des plus belles expos depuis la mort de son mari, même par rapport à d'autres grandes expos qu'on a pu avoir derrière. C'est parce c'était le lieu qui faisait le lien avec un quotidien et un rapport à une vie quotidienne dans ce village qui parlait par rapport à ce qu'était l'œuvre de son mari, qu'on le projetait quand même dans les pratiques contemporaines et qu'on le réintroduisait donc par rapport à ce que je disais avant, de réinterroger une histoire de l'art et de regarder quel rôle ça jouait dans l'histoire de l'art, mais qu'est-ce que ça pouvait déclencher aujourd'hui en termes de pensée. C'était aussi une expo qui a permis des liens, je dirais quand même à ce moment-là, où même si les liens existaient, ou avec Xavier, avec Xavier Doux, tu as parlé du catalogue, mais qu'on a commencé à dire que bah, on allait travailler ensemble, quoi. Je ne vais pas dire qu'on allait lutter, mais qu'on allait se mettre ensemble pour aboutir sur des projets. Et que ce catalogue, oui, je pense que si on ne l'avait pas fait ensemble. Parce que même si souvent on pense à Mangion, à la Seyne-sur-Mer, à l'époque, je pense que c'est beaucoup plus joué dans ce qu'on faisait à Bourgogne et dans le travail qu'on a lancé.
Oui, puis on peut peut-être évoquer aussi, parce que c'est vrai que moi, je m'en étais très sincèrement pas rendu compte à l'époque, mais étant, on va dire, débutant dans la gestion de la bibliothèque, mais il y a eu le cycle de conférences avec, comme on dit, des pointures. Bon, malheureusement, Pierre Descartes n'avait pas pu venir, mais il y avait quand même donc Philippe Serres et Michel Giroud qui ont dialogué autour de Schoeffer, chacun selon leur point de vue. Donc je pense que ça, c'était aussi une des volontés, et puis comme tu le disais, assez comment dire, enthousiasmant de pouvoir proposer un cycle comme ça de conférences en rebond à l'œuvre exposée.
Ça, pour moi, c'était assez logique. Ça faisait partie des façons dont j'avais appris à travailler aussi bien avec Sylvie Ramon qu'avec Jean-Michel Bourreau. une logique, mais c'est vrai que quand tu repars des conférences, ce qui était pensé à l'époque, c'était comment on faisait d'une exposition une expérience. Donc l'exposition était pensée comme une expérience, mais tout ce qui était proposé était autour, avec aussi cette question de comment cette expérience elle fait trace. Et donc on avait vraiment choisi des thèmes avec les trois, donc c'est vrai que Descartes n'avait pas pu au final venir, ce qui est dommage, parce que les conversations que j'avais eues à Paris avec lui avaient été assez passionnantes sur Schoeffer. Mais la question c'était comment ces conférences-là allaient apporter des points de vue sur des choses qui n'étaient pas explorées à l'époque. C'est pour ça que j'avais proposé à Michel de travailler sur la question du schéma dans l'art, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout travaillé par grand monde, alors que c'est une vraie question qui mérite des explorations plus fortes en termes d'histoire de l'art. Philippe Serres, c'était pareil sur l'approche qu'il avait fait. Et puis il y avait tout l'aspect de cette exposition qui était aussi comment penser une scénographie qui, en dehors de l'expérience avec les œuvres, apportait aussi un savoir qui n'était pas évident pour les gens, puisque comme tu dis, aujourd'hui il y a l'âme, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles pour un public lambda par rapport à des œuvres comme celle de Schoeffer, mais à l'époque on partait quand même de loin, quoi. Et il y avait toujours aussi cette magie de la rencontre avec Éléonore qui était importante à rendre compte. Donc ça on l'avait fait puisqu'elle est venue faire des visites. Et ça aussi c'était des souvenirs assez incroyables de ces gens qui venaient visiter avec elle l'expo et qui au final sont peut-être restés 3 heures tellement c'était un fleuve et enthousiasmant pour eux. Donc ça a été des expériences assez belles. Mais il y avait surtout d'avoir imaginé, et c'est moi je l'avais oublié, c'est Éléonore qui m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, ces cartels multimédia qu'on avait créés.
Avec Eric Bernot et puis Vincent.
Avec Eric Bernot, tout à fait. Et Vincent qui avait fait tout le développement informatique derrière, mais qui restituait, alors qui évitait le petit texte à lire, qui évitait des habillages des murs, mais qui apportait des façons différentes de pouvoir appréhender les œuvres et le savoir qui est autour de ces œuvres. Et puis c'est derrière le DVD. Les deux DVD qui avaient été créés à partir de l'ensemble des contenus. Donc, des choses qu'on avait fait comme la sauvegarde de l'atelier de manière numérique, mais aussi ces cartels numériques et les conférences qui étaient possibles d'écouter ensuite pour ceux qui le veulent à travers ces DVD. Et c'est marrant parce que là, on m'interrogeait pour savoir est-ce que c'était possible de reprendre ces contenus et d'en faire quelque chose. Et c'était vraiment ça qui était cherché derrière. Et qui pour moi je parlais des gens avec qui j'ai appris à monter des expos, donc Sylvie qui est aujourd'hui à Lyon, ou Jean-Michel qui était à Beaubourg, c'est cette question-là que je trouve qu'il manque dans beaucoup de lieux d'art contemporain, sans chercher à être dans un musée, qui doit être c'est comment on fait l'expérience et comment on transmet un savoir dans le temps autour de cette expérience.